Radio Cité Genève.
Genève internationale. Epiphanie Monfo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de ce magazine. Le sport, souvent célébré pour son pouvoir d'unir et d'inspirer, cache malheureusement des réalités sombres qui méritent une attention urgente et collective. La traite des êtres humains, l'exploitation et l'esclavage moderne constituent des fléaux persistants dans le domaine sportif, touchant des athlètes de tous âges et de tous horizons. Conscient de l'ampleur de ce problème, l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte pour la surveillance et la lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec Mission 89, a organisé le 20 juin dernier une conférence sur ce sujet. Elle était coparrainée par la mission permanente du Saint-Siège à Genève. C'était un événement parallèle alors que se tenait la 56e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Rencontre avec Michel Vetet juste après cette conférence. Bonjour Michel Vetet.
Bonjour Monsieur Amanfo Epiphane, très content de vous retrouver.
Ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte pour la surveillance et la lutte contre la traite des personnes, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la traite des êtres humains et l'exploitation sont des problèmes particulièrement préoccupants dans le domaine du sport, alors que nous venons d'assister à un side event sur le sujet?
Alors, c'est préoccupant parce que, aussi, d'une part, c'est très répandu et d'autre part, c'est méconnu. Et puis, quand c'est connu, c'est ignoré ou voire occulté. Et c'est pour cela que c'était très important d'avoir là maintenant des associations sportives comme la FIFA, des associations sportives comme l'Union internationale pour le baseball, les organisations qui étudient cette chose, et par exemple, c'est Lerina Bright, qui est le directeur exécutif de Mission 89, et puis il y avait la professeure Parosha Chandran, qui est au King's College, et qui elle aussi connaît bien cette affaire. Et alors, ce qu'on voulait faire, c'était justement de dire, écoutez, voilà, on a la perspective maintenant des Jeux Olympiques de Paris cet été, et on avait aussi comme principal orateur, on avait Kevin Highland, qui lui a été responsable de la sécurité pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, et de dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et véritablement, il y a des tas de choses qui pourraient être faites, mais qui ne sont pas mises en évidence. Et parmi ces choses qui peuvent être faites, il y a justement la prévention. Mais c'est clair que la prévention, ce n'est pas deux semaines avant les Jeux qu'on peut commencer à faire ça. Alors j'ai aussi brièvement, dans mon introduction, souligné qu'il y a une organisation en France qui s'appelle le Secours catholique, c'est Caritas France, qui a fait une série d'affiches et de vidéos pour prévenir, pour dire il y a un côté évidemment tout à fait prestigieux, et puis il y a un côté tout à fait scandaleux, et il faut éviter de passer de l'un à l'autre, et pour cela je pense que nous n'avions pas une représentante là de cette personne, de cette organisation, je vais mentionner Geneviève Collat, mais nous avions d'autres gens que nous n'avions pas encore entendus dans nos webinaires, et je veux dire que j'étais très heureux de les entendre, parce que ça découvre des horizons différents, des horizons qui sont parfois très sombres, mais qu'on ne peut pas ignorer.
Quels sont les principaux facteurs qui rendent les athlètes vulnérables à la traite et à l'exploitation dans le sport?
Alors justement, on a eu un survivant, un Américain, John Michael Lander. Et cet homme a dit, ben, vous voyez, moi, j'étais un athlète dans la natation, et puis un jour, il y a des gens qui sont venus vers mes parents, qui ont dit, mais enfin, votre fils, il est vraiment bon, il est vraiment bon, et on va le prendre dans des camps d'entraînement, vous allez être certain qu'il va pouvoir avoir une médaille d'or. Et il dit, oui, j'ai eu la médaille d'or, mais à quel prix? Et alors, justement, après, il expliquait, ben, il a dit, ben voilà, il y a des entraîneurs qui, après m'avoir flatté, après m'avoir dit, mais vous pouvez compter sur moi, vous pouvez avoir confiance, m'ont amené dans des camps, et puis dans ces camps d'entraînement, la nuit, tout d'un coup, à sa grande surprise, il a subi des abus. Il ne savait pas vraiment comment s'en sortir, parce que d'une part, il faisait confiance à ces gens, puis d'autre part, il ne s'attendait pas à ce genre d'attitude. Et puis, enfin, s'il commençait à rendre les choses publiques, il ne savait pas quel serait le reste de sa carrière sportive. Et donc, c'est seulement 14 ans après avoir subi ces abus qu'il a commencé à s'exprimer. Et puis, il s'est exprimé de plusieurs manières, y compris pour un livre, publié en anglais. Et puis, maintenant, il s'exprime aussi à titre de conférencier. Et je dirais que là, il montre très clairement que la famille, les entraîneurs sportifs, les autres sportifs, et puis encore d'autres gens qui soutiennent les équipes, etc., peuvent être des gens qui ont un rôle extrêmement ambigu pour le moins.
Quels sont les rôles et les responsabilités des fédérations sportives et des clubs pour prévenir et combattre la traite et l'exploitation des athlètes?
Bien sûr, alors vous avez raison de dire, ce sont les fédérations sportives qui devraient prendre des mesures. Alors, on peut dire, bien évidemment, les parents devraient avoir une certaine responsabilité. Oui, les parents ont une certaine responsabilité, mais les parents ne savent pas. Les parents font confiance à ces fédérations et ces fédérations elles-mêmes devraient prendre des mesures pour, un, avoir des normes, je dirais, deux, avoir des programmes
de protection,
de formation, de prévention, et même éventuellement après de poursuite, ou en tout cas de réparation. Et donc c'est pour ça que là, ces associations, que ce soit au plan national ou que ce soit sur le plan régional ou international, doivent vraiment prendre des mesures.
Quid des gouvernements?
Ah, mais les gouvernements eux-mêmes, évidemment, les gouvernements ne peuvent pas dire, ah ben regardez, c'est magnifique, on a des médailles d'or et puis ces gens sont admirables. Oui, ils sont admirables, mais ils ont aussi été victimes ou ils sont eux-mêmes des abuseurs. Alors, les gouvernements doivent véritablement s'assurer que dans leur équipes nationales, si je peux dire, ou que leurs athlètes qui le représentent dans ces grands événements, que ces athlètes ne sont pas sujets à ces abus ou ne sont pas eux-mêmes entraînés à le faire. Et d'ailleurs, comme vous savez, parfois les rôles sont un peu interchangeables, malheureusement.
Comment la communauté internationale peut-elle mieux collaborer pour lutter contre ces cas d'abus dans le sport?
Alors, vous avez raison, ça ne doit pas se faire simplement sur le plan national. Sur le plan international, il est évident qu'il faut y avoir une collaboration. Parce qu'évidemment, si vous avez des règles qui sont seulement pour un pays, c'est pas mal. Si c'est un grand pays, c'est encore mieux. Mais si c'est pour une série de pays, qu'il y ait justement, par exemple, pour la protection des enfants dans les événements sportifs, l'UNICEF a un code de conduite. Et je pense que ça, c'est très précieux. Il faut commencer par le code de conduite. Et puis après, on verra bien si on a des dispositions pénales ou surtout si on a des tribunaux qui sont prêts à entrer en matière quand il y aurait des affaires qui devraient être poursuivies pénalement, mais aussi civilement, parce qu'il y a aussi des indemnités à donner à ces victimes.
Merci à vous, Michel Vetet, ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, pour la surveillance et la lutte contre la traite des personnes. Merci également à toutes et à tous. C'était depuis le Palais des Nations, ici à Genève. Belle suite de journée sur Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Merci beaucoup à vous, monsieur Amampo, et je suis toujours très heureux de vous rencontrer et très reconnaissant de pouvoir m'exprimer sur Radio Cité.
Plaisir partagé.